Entente de vie commune, garde d'enfants, pension alimentaire, divorce, séparation. Voici Maître Kim Beaudoin, votre experte en droit de la famille. Avocat à Gatineau.com.
On est lundi et le lundi, ben, ça rime avec droit de la famille. Et pour en parler, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important là, comme sujet. C'est un enjeu délicat. C'est un enjeu qui suscite beaucoup de réactions et de contestations. Et j'ai nommé quel est le revenu qu'on doit utiliser pour déterminer les pensions alimentaires à verser. J'imagine que c'est pour enfants, mais on aura les éclaircissements de qui? Ben, de Maître Kim Beaudoin, avocate en droit de la famille. Salut Kim!
Salut Rock.
Alors, est-ce que j'ai bien mis la table? Est-ce qu'on va parler de la détermination de la pension alimentaire pour enfants?
C'est exactement ça. On va regarder la question des revenus. Ça a l'air facile, sauf qu'il y a toujours... Il y a toujours des petites questions à l'entour du revenu et puis certaines personnes ne comprennent pas pourquoi que dans certains cas, on regarde le revenu brut, pourquoi que dans d'autres cas, on regarde le revenu net. Fait que je voulais là faire le tour de cette question-là avec toi.
Est-ce que je peux un peu mettre la table avant qu'on commence pour délimiter notre terrain de jeu? Est-ce que ce que tu vas nous discuter, ce que tu vas nous expliquer, est-ce que c'est le même principe qu'on utilise pour déterminer la pension alimentaire pour conjoints?
Non.
OK.
Et oui.
Ah.
C'est que les lois ne sont pas les mêmes, les barèmes ne sont pas les mêmes non plus.
Okay.
Donc, on va rester pour les enfants parce que ça, on a une loi qui est très, très claire et on a un formulaire de fixation de pension alimentaire qui est aussi très clair.
L'autre chose qu'on va écarter du débat, est-ce que ce que tu vas nous expliquer varie en fonction du fait que les deux ex, monsieur, madame, dans le cas présent, monsieur, madame, mettons, des nouveaux conjoints avec qui ils vivent. Est-ce que ça change quelque chose dans le calcul que tu vas nous expliquer?
Pas du tout.
Parfait. C'est clair. Il y a un enfant issu d'une relation, ce couple-là pète. Marié, pas marié, ça change rien parce que c'est l'intérêt de l'enfant. C'est bien ça?
C'est ça.
Okay, excellent. Puis là, on va aller dans le détail du calcul. Quel revenu prendre pour faire le calcul de la pension alimentaire? On y va.
C'est ça. Et puis, pour être encore plus clair, Rock, on regarde deux parents qui habitent au Québec.
Oui, oui, d'accord.
OK. Donc, dans un premier temps, pour tous les salariés, c'est relativement facile. On regarde le salaire brut. OK. Et puis, du salaire brut, on a le droit à certaines déductions, soit la déduction pour les cotisations syndicales ou les cotisations professionnelles. Mais on ne regarde pas le salaire net. Puis les gens, des fois, ils ne comprennent pas. « Ouais, mais je ne l'ai pas dans mes poches, ça. » OK, mais le gouvernement, quand il a fait sa loi, a décidé qu'on regardait le revenu brut. Donc, c'est pas mal, pas discutable. C'est ça.
Okay.
Fait que même si on trouve que c'est très difficile, même si on trouve que bien c'est pas juste parce que on l'a pas dans nos poches cet argent-là, tout le monde, les barèmes sont faits pour tout le monde et puis tout le monde, on regarde leur revenu brut.
OK, ça c'est pour les salariés, oui.
Ça, c'est pour les salariés. Mais quand on n'est pas salarié...
Non, je t'arrête. On reste sur les salariés.
Oui.
Je vais te donner des exemples de situations.
Parfait.
Puis on va prendre...
Okay.
On reste sur les salariés. Alors, le salarié...
Okay.
Le salarié, exemple. Il est policier cadre Gatineau.
Oui.
Il a une auto de fonction fournie à temps plein.
C'est rien que toi, Rock, qui rentrerait dans le détail minutieux comme ça.
Mais non, mais n'importe qui a une auto de fonction de fournie par son entreprise. Il vend du yogourt, il y a un salaire,
c'est
mais
ça.
Il y a un char de fonction. Il y a le policier, la directrice générale de la ville, etc., etc. Quand tu as une auto fournie, comment tu calcules cet avantage-là?
Bien, si l'auto qui est fournie peut être utilisée tous les jours, la fin de semaine, le soir, on a le droit de transporter nos enfants dedans, on l'utilise, on n'a pas d'autre voiture, là, puis cette voiture-là, on l'utilise
oui.
en tout temps.
Oui.
OK? Donc ça, c'est un revenu imposable.
Parfait.
Et puis,
Faut que j'additionne à mon revenu brut, donc.
Effectivement.
Okay.
Et puis, c'est supposé, de toute manière, apparaître à la déclaration fiscale.
Oui, mais là, c'est pas dans la case salaire.
Non, sauf que c'est dans la case, il y a quand même la case avantage.
Voilà.
C'est un avantage.
Okay.
Et puis au Québec, là, même les assurances, lorsqu'on a une assurance santé, c'est un avantage.
Oui, c'est ça.
cet avantage-là est comptabilisé dans notre déclaration de revenus et elle apparaît. Donc, nous, on en tient compte.
OK. Encore toujours mon salarié. Ça va?
Oui.
Mais mon salarié, là, il a gagné 1 million à la loterie. Puis, il a mis 1 million en banque. Puis, il tire de cela 20 000 piastres d'intérêt par année. Est-ce que le 20 000 piastres d'intérêt est comptabilisé?
Bien, pas rien que le 20 000 $ d'intérêt, mais en plus ses actifs. Là, tu rentres dans les détails dans lesquels j'étais pour arriver, moi, un tout petit peu plus tard.
D'accord.
Mais effectivement, lorsque il y a quelqu'un, il y a un des parents qui a beaucoup d'actifs, on va tenir compte de ces actifs-là dans la détermination de la pension alimentaire.
En plus,
ça, dans ce cas-là,
en plus de
c'est
son
du
salaire.
Cas par cas.
OK, en plus du salaire.
En plus de son salaire.
D'accord.
C'est ça.
OK.
Et parfait. Puis, c'est pour ça que lorsqu'on remplit le formulaire, on a aussi l'obligation non seulement de divulguer l'argent qui rentre, mais on a l'obligation de divulguer tous nos avoirs et toutes nos dettes pour que la Cour puisse regarder, voir, OK, oui, mais tu sais, si une personne a un revenu de 50 000, mais a des avoirs de 2 millions, peut-être qu'il peut entamer ces avoirs-là pour payer une pension alimentaire qui est plus élevée.
OK. Toujours dans notre exemple de salarié, on reçoit un salaire, on est serveur dans un resto et on reçoit du pourboire. Est-ce que c'est le pourboire qui est imposé à 8% qu'on doit déclarer ou est-ce que c'est l'ensemble du pourboire? Bien sûr.
Oui, bien c'est ça. Hein? On se fie toujours sur la bonne foi des gens. Et puis, c'est le pourboire déclaré. C'est tout le pourboire reçu.
Okay.
Et puis, les gens ne sont pas supposés de ne pas déclarer le pourboire dans leur rapport d'impôt. Donc, on est supposé de le retrouver au rapport d'impôt. Lorsqu'un parent est honnête et dit, bien, écoutez, moi, je reçois comme salaire, mettons, 20 000 $ mais j'ai un 5 000 $ de plus en pourboire qui apparaît pas à ma déduction fiscale. Ce 5 000 $-là, Rock, on est supposé de le rendre imposable.
D'accord.
Donc, on est supposé de le transférer en revenu brut. Parce que c'est toujours la règle du revenu brut.
Puis, la pension est toujours en fonction du revenu passé, gagné. Mais si l'année passée, je n'avais pas d'emploi, puis au moment qu'on détermine la pension, j'ai une expectative de job qui me paye 100 000, puis l'année passée, je n'avais pas de revenu. La pension ne sera pas sur le futur du 100 000. C'est toujours le revenu passé.
Bien, c'est effectivement ce que tu viens de dire. Non, mais c'est toujours sur... Non, c'est sur l'expectative.
Ah oui?
C'est pas sur le... Oui. Si on sait... Le juge ne va pas dire, bien, là, on est en 2019, on passe à la cour et puis on sait que la personne, le parent, vient de commencer un emploi. Fait qu'on sait que pour le futur, là, le revenu va être 100 000. On n'obligera pas le parent qui reçoit la pension alimentaire à revenir au mois de janvier ou l'année suivante pour déterminer quelle sera maintenant la pension alimentaire. On sait qu'il y a un revenu. Le revenu va être de 100 000 par année. On va commencer la pension alimentaire à partir du moment où le parent gagne ce 100 000 $-là. Donc, on va aller un peu là à l'encontre de la des règles, mais parce que le tribunal a le droit de faire ça.
Okay.
Mais, pareil comme si l'année d'avant, le parent avait un revenu de 100 000 et au moment où ce parent-là passe devant le tribunal, ce revenu-là est baissé à 50 000. On ne va pas demander aux parents de payer pour l'année qui s'en vient une pension alimentaire basée sur le 100 000.
OK. Ça va, c'est deux barres. C'est correct, ça?
C'est ça.
Parfait. OK. On continue.
Donc, est-ce qu'on peut aller au revenu de personne qui a une entreprise?
Oui.
Parfait. Donc, mon travailleur autonome qui a une entreprise qui n'est pas une entreprise incorporée. OK? Donc, c'est une entreprise qu'on retrouve dans certaines des pages là, dans les annexes de la déclaration de revenus parce qu'on a le droit d'avoir une entreprise sans qu'elle soit incorporée.
C'est ça.
On est considéré un travailleur autonome.
C'est ça.
Et là, à ce moment-là, c'est là où on va à l'encontre de la règle du revenu brut parce qu'on dit, minute là, on va prendre toutes les dépenses qui sont comptabilisées pour exploiter l'entreprise. Donc, on prend le revenu brut de l'entreprise, moins les dépenses d'exploitation. Ça nous donne une certaine somme qu'on retrouve à la ligne 264. Cette somme-là, c'est le revenu net d'entreprise. Bien, on va prendre le revenu net d'entreprise, puis on va déclarer cette somme-là comme étant la somme qui est le brut de la personne qui paye, qui doit payer ou qui reçoit une pension alimentaire, donc du parent.
Okay.
Pourquoi? Parce que on n'a pas payé d'impôt encore, là.
Ouais.
On a juste déduit les frais d'exploitation. Puis ça, là, c'est tellement contentieux, cet aspect-là. Puis moi, la façon que je l'explique à mes clients, c'est que je donne toujours l'exemple de moi. Je suis assise dans mon bureau, ils me voient, bien, ils savent que je ne couche pas dans mon bureau, ils peuvent bien le voir. Bien, j'ai un loyer à payer. Ils voient mon téléphone, ils voient mon équipement, le photocopieur. Bien, tout ça, là, moi, avant d'avoir un revenu pour moi, j'ai un revenu j'ai des dépenses que je dois payer parce que la personne normale qui va travailler, mettons, au gouvernement fédéral, ben, ne paye pas pour le photocopieur, ne paye pas pour le loyer, ne paye pas pour tous ces items-là.
C'est ça. C'est correct. Évidemment, il y a toute la question, par contre, est-ce que dans le revenu d'entreprise, est-ce que durant le cours des affaires dans l'entreprise, est-ce que la personne se prend un salaire? Alors, si c'est le cas, bon, ben, il tombe dans la catégorie salaire plus les excédents qu'il garderait comme profit. Fait que là, c'est autre chose aussi, là.
Oui, mais ça, la plupart du temps, lorsqu'on est rendu là, on regarde une entreprise qui est incorporée.
D'accord.
D'habitude, quand la personne est prête à se payer un salaire ou choisit de se payer un salaire, elle choisit aussi de s'incorporer. Puis là, à ce moment-là, on regarde des lignes différentes. Mais okay. La personne devient un salarié.
D'accord.
Et puis, la personne peut aussi recevoir des dividendes.
C'est ça.
Et puis, donc, lorsqu'on arrive aux dividendes, il faut regarder que les dividendes, c'est des dividendes qui sont imposables qu'on calcule. Donc, on ne calcule pas encore là, les dividendes nets. C'est celles qui sont dans la déclaration d'impôt comme imposables.
Mais tout ça, là, on va avancer rapidement sur cette question-là. Ça pourrait devenir compliqué devant le tribunal, là. Tout le monde a un salaire, ça, c'est pas grave. Mais parce que là, l'exercice, c'est bien beau de le faire pour un, mais il faut le faire pour l'autre aussi, parce que c'est le salaire ou c'est les revenus comptabilisés au fin du calcul de la pension. C'est le salaire, c'est les deux montants qu'on doit mettre en comparaison, là. C'est pas juste un, évidemment.
Tout à fait. Tout à fait. Puis c'est ces revenus-là qui vont déterminer aussi les frais particuliers, qu'on va regarder un prorata pour les frais particuliers. Maintenant, le dernier aspect que je voulais regarder avec toi, Rock, ça serait par rapport au, parce qu'il y a d'autres revenus qu'on reçoit qu'une personne peut recevoir, des revenus nets. Une personne qui reçoit de la CSST, qui s'appelle plus de la CSST, mais moi j'appelle encore ça comme ça, là, donc des prestations qui sont non imposables.
Ouais.
On doit les convertir. On doit les transformer en revenus imposables.
D'accord.
Donc, on ajoute à cette somme-là. Si quelqu'un reçoit 30 000 $ bien, nous, on a un logiciel qui dit, OK, ce 30 000 $-là, au niveau imposable, il vaut X.
D'accord.
Et on doit l'inscrire comme tel.
Ouais.
Parce que sinon, on est désavantagé. L'autre parent est désavantagé.
Bien sûr, bien sûr. C'est très bien. Alors, essentiellement, c'est pas simple. Puis, faut pas essayer d'en passer des petites vites. J'imagine que ça se passe, ça doit arriver, mais le tribunal n'est pas cave à temps plein, ils n'ont vu d'autres.
Effectivement. Et puis, tout ce que je te dis vient aussi des décisions, non seulement de la loi, mais des décisions du tribunal.
De jurisprudence. Excellent!
C'est ça.
Merci beaucoup, Kim.
Bon, bien. Merci, Rock.
Bonne
Bye.
Semaine. Bye. Kim Beaudoin, notre avocate en droit de la famille.